Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. La culture juive au sommaire de Mémoire vive aujourd'hui autour de Gershom Scholem. Gershom Scholem, historien, philologue, philosophe, figure intellectuelle majeure du XXe siècle. Gershom Scholem qui se voit consacrer un volume des Cahiers de Lerne, ouvrage qui entend saisir toutes les facettes du personnage. Le grand spécialiste de la mystique juive, l'historien, le sioniste, l'homme né à Berlin et qui s'installa en 1923 à Jérusalem. Maurice Kriegel, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez composé ce cahier de Lerne consacré à Gershom Scholem. Vous êtes directeur de recherche à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, où vous dirigez le centre d'études juives. Maurice Kriegel, avant de parcourir avec vous cet ouvrage consacré à Gershom Scholem, une question plus personnelle. Vos travaux portent entre autres sur le judaïsme ibérique au Moyen-Âge. Comment avez-vous rencontré, dans votre activité d'historien, l'œuvre de Gershom Scholem?
Si vous voulez, si on s'intéresse au judaïsme en Espagne, au Moyen-Âge, à l'histoire culturelle, intellectuelle, on rencontre nécessairement l'œuvre de Scholem qui s'est passionné pour la mystique juive dans sa première étape, dans son étape qui spécifiquement médiévale, celle qui concerne le sud de la France et puis ensuite l'Espagne, la Catalogne ou la Castille, et c'est en Castille qu'a été rédigé le Zohar, et donc l'œuvre de Scholem concerne très directement l'histoire des Juifs ibériques.
C'est donc cette publication, le Cahier de Lerne, Gershom Scholem, qui nous rassemble aujourd'hui. Un ouvrage composé de dizaines d'articles, de textes de Gershom Scholem et de textes d'analyse, de témoignages sur l'homme Gershom Scholem. Comment compose-t-on un tel volume, Maurice Kriegel?
En tout cas, il a été composé en ventilant la matière en trois types de, dans trois directions. D'une part, une série d'entretiens qui remontent pour la plupart aux années 70 et je pense qu'à travers ces entretiens, la personnalité de Scholem ressort fortement. Ensuite, des textes qui sont tous inédits. Et puis, une troisième direction, ce sont les analyses de grands auteurs autour de Scholem. Donc, il était assez facile de décomposer la matière, si vous voulez, selon ces différentes directions.
Alors, une présentation à la fois, évidemment, de l'œuvre de Scholem, oui. Mais aussi, vous avez rassemblé ici des textes à caractère autobiographique, de témoignages.
Oui, enfin, les témoignages, c'est-à-dire que Scholem, comme ça arrive dans la dernière partie de sa vie, a écrit des petits textes où il considère son propre chemin, où il essaye de s'analyser lui-même, où il s'explique aussi sur ce qu'il a voulu faire. Généralement, ce sont des textes brefs, très clairs, je dirais souvent d'ailleurs très touchants, d'un très très grand auteur, qui s'explique sans phare et sans hauteur particulière, et qui cherche à faire saisir ce qu'a été son entreprise. Et ces textes sont très éclairants. Il y a aussi des textes autobiographiques, un tout petit peu alors au second degré, où il y a des textes du jeune Scholem, qui sont très frappants par leur caractère souvent très, très véhément, très effervescent, et qui montrent une personnalité dans ses premières, dans les premières étapes de sa vie et de la construction de son œuvre. Mais donc, il y a à la fois ce qui relève du biographique tout en étant les premières étapes d'une œuvre savante, et puis il y a le regard de l'homme sur lui-même.
Alors vous avez privilégié des textes inédits en français.
Oui.
Rappelons peut-être à nos auditeurs quels sont les maîtres livres qui jalonnent l'œuvre de Scholem.
Ah ben, on pourrait dire son œuvre, elle se décompose en deux ensembles. Il y a les œuvres qui se veulent d'histoire de la mystique juive et d'histoire d'ailleurs au plus large du judaïsme au-delà de la mystique, parce que même si Scholem s'est concentré sur le courant mystique, sur la Kabbale, en réalité par implication c'est l'ensemble du monde juif qu'il prend en écharpe, si je puis dire. Mais donc cette première direction, c'est une direction d'historien, où il essaye de saisir dans la diachronie ce qu'est... comment la Kabbale s'est construite, quels ont été ses renouvellements, quels ouvrages appartiennent à quelle période, sont plus typiques d'un type de sensibilité à tel moment plutôt qu'un autre, etc. Et puis, il y a un deuxième ensemble. Alors ça, et l'œuvre là, la plus connue, c'est très certainement Les grands courants de la mystique juive, hein, qui est disponible, c'est un ouvrage que Scholem a publié en 1941. Évidemment, sur le moment, la diffusion a été assez confidentielle, mais immédiatement. Enfin, un peu plus tard d'ailleurs, parce que c'est surtout à partir des années 50 que l'ouvrage connaît la reconnaissance à l'égard de cet ouvrage est très très forte. Mais c'est donc ce livre dans lequel, au bout de 20 ans d'études, Scholem a concentré tout ce qui lui paraissait important. Au-delà de ce qui intéresse les spécialistes, etc. Et puis une deuxième direction dans son œuvre, c'est celle qui cherche à saisir sous forme plus typologique ce que sont les grands thèmes de la Kabbale, ce que les dans le paysage de la Kabbale, quels sont les éléments massifs, les préoccupations majeures, les thématiques qui apparaissent le plus souvent. Et là, Scholem les traite en tant que forme d'une sensibilité religieuse, et donc moins sous l'aspect strictement historique que dans l'analyse où il y a aussi une démarche philosophique, ou en tout cas elle entre en jeu. Voilà. Et ça, il y a plusieurs ouvrages de Scholem. Ces textes ont souvent été publiés à la suite de conférences que Scholem donnait dans les années 50 à Ascona, en Suisse, dans un cadre d'études religieuses comparées. D'ailleurs, des conférences qui avaient lieu sous le patronage de Jung. Mais Scholem n'a jamais été d'aucune manière jungien. Enfin, Jung était là, bon. Et ses ouvrages sont aussi, enfin, il y en a une série qui sont disponibles. C'est le second grand massif de ses œuvres.
Alors, Maurice Kriegel, on comprend à la lecture de ce cahier de Lerne, Gershom Scholem a eu, très tôt dans sa vie, vous évoquiez tout à l'heure le ton effervescent de ses premiers textes, très tôt dans sa vie, donc, une vision précise du projet intellectuel auquel il allait s'atteler donc toute sa vie. Jeune homme à Berlin, nous sommes dans les années 10, les années 20, il est dans la vingtaine, il a fait des études de philosophie et de mathématiques, il décide ensuite de se consacrer à l'étude du judaïsme, mais dans une perspective tout à fait nouvelle pour l'époque. Et il a dès le début une idée très claire de sa tâche.
Oui, ses convictions se sont cristallisées très tôt, très très tôt. Dans l'adolescence, on a des textes de lui où il a 17 ans et où, au fond, certaines convictions très fortes qui l'ont habité jusqu'au bout sont déjà là. Alors l'idée de ce qu'il voulait faire en réaction contre ce qui lui paraissait être les insuffisances des études juives et l'idée du rôle que la réflexion sur le judaïsme devait avoir dans un renouvellement plus général, ces notions, là encore, l'habitent et sont le moteur d'une œuvre qui est toujours faite en étroite association à ce que sont les choix de sa vie, l'installation à Jérusalem, donc très tôt. Et l'un des moteurs, c'est ce que vous venez de dire, c'est sa réflexion sur... Bon, il pense que, notamment, le renouvellement du judaïsme devra venir d'une réflexion informée sur le monde juif dans son histoire, sa spiritualité, et que l'état des études juives est extraordinairement insuffisant et sont en réaction à une tradition d'études qu'il a construit sa propre œuvre.
Alors, faut l'imaginer tout jeune homme à Berlin, oui, dans les années, oui, 10 et 20, avant son départ pour Jérusalem, parcourant, oui, les divisions de Judaïka des bibliothèques. Oui. Et il s'intéresse là à des ouvrages qui, à l'époque, sont complètement obscurs. Oui, oui. Donc, c'est le corpus de la Kabbale, de la mystique, oui, juive. Et il a, oui, cette phrase: je passe ma vie à lire des livres que personne d'autre ne lit.
Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il dira jusqu'à la fin de sa vie quand on l'interroge, devenu une très grande personnalité, n'est-ce pas ? On l'interroge sur tel ou tel écrivain contemporain en Israël. Sa réaction est souvent, alors il a eu des relations très étroites avec quelqu'un par exemple comme Agnon, dont il a été l'ami très proche. D'ailleurs même Agnon a écrit sur lui ce qui paraît être une nouvelle qui lui est consacrée, que d'ailleurs Scholem n'a pas beaucoup aimé. Mais il n'a pas eu, parce que bon, mais donc il a eu des relations très proches avec certains très grands auteurs.
Avec Walter Benjamin très tôt.
Oui, bien sûr. Mais sur certains écrivains israéliens des années 70, il revient sans faille, il s'exprime de façon assez désinvolte en disant « Écoutez, moi je n'ai pas tellement de temps, je lis les livres que personne ne lit. » Ça, il l'a dit toute sa vie, oui.
Alors, pour bien mesurer l'ampleur de l'œuvre de Scholem, il faut dire qu'il ne s'agit pas simplement donc, d'une étude d'un ensemble de textes tombés dans l'oubli, la mystique juive, la Kabbale, oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le projet intellectuel de Scholem, il va plus loin ? Il s'agit de replacer la Kabbale et la mystique juive au cœur du judaïsme dans son entier, et donc que cette vision bouleverse la vision traditionnelle de l'histoire juive.
En tout cas, c'était certainement son ambition. Je dirais que ce qui fait la dimension exceptionnelle de son œuvre, on peut l'apercevoir dans deux sens. D'une part, son interprétation du rôle de la mystique, de la Kabbale dans le judaïsme propose une relecture de toute l'histoire juive sur le très long cours. Et par ailleurs, en même temps, son interprétation de la mystique juive, de la Kabbale, a des implications très vastes pour la science des religions en général. Et dans les années 20, d'ailleurs, il se concevait, donc dans un premier temps, il se concevait comme quelqu'un qui sur le judaïsme, devait participer à une entreprise de rénovation de l'étude du religieux et de ce qu'on appelait en Allemagne la science du religieux dans les années à cette époque. Mais très certainement, à travers l'étude des ouvrages publiés et des manuscrits, donc en recherchant des manuscrits que personne n'avait jamais lus, etc., son entreprise était formidablement ambitieuse. C'était un érudit incomparable, mais dont chaque texte d'érudition dépasse la simple érudition. Il y a toujours en arrière-plan une question très fondamentale qui est posée, qui l'interpelle, sur laquelle il va renouveler éventuellement d'ailleurs ses réponses. Non, mais l'œuvre, il y a un souffle qui habite l'œuvre tout au long.
À Maurice Kriegel, dans cette belle publication, ce cahier de l'herbe que j'ai sous les yeux, on voit bien que votre ambition en rassemblant tous ces textes consacrés à Scholem, c'était aussi de dresser un portrait de l'homme, oui. Sa vie de Berlin-Jérusalem. De Berlin-Jérusalem, oui. C'était le titre, oui, de son autobiographie, oui. De l'homme et de ses engagements, engagements qui là aussi interviennent très tôt dans sa vie, au premier rang, oui. Le sionisme, lui, oui, qui, oui, s'installa à Jérusalem dès 1923. Comment naît cet engagement sioniste pour Scholem ?
Ben, il est inséparable de sa redécouverte du judaïsme, ou d'ailleurs de sa découverte, puisque il vient d'un milieu à Berlin de moyenne bourgeoisie, où assez classiquement, d'une génération à l'autre, on continue à fêter, à observer les fêtes, mais moins qu'à la génération précédente, si vous voulez, en n'y accordant pas beaucoup d'importance.
On parle allemand ?
Bien sûr. On a un sentiment d'appartenance allemande qui est très puissant. Et chez Scholem, comme d'ailleurs chez Scholem Gerhardt, qui deviendra Gershom, comme chez son frère, qui lui deviendra communiste après la Première Guerre mondiale.
Député élu au Reichstag.
Député, et le plus jeune député d'ailleurs. Il y a une révolte contre un milieu, disons, de judaïsme bourgeois assimilé, très connu, enfin selon un modèle très classique. Veut un engagement juif, donc c'est auquel sa famille ne l'invite pas du tout. qui se produit dans un, alors qu'il est très très jeune, il a 15-16 ans, par un passage dans l'orthodoxie ou même l'ultra-orthodoxie, il a été membre de la Agouda, Agouda d'Israël, mais alors très très peu de temps, où il s'y est trouvé insatisfait, l'idée que tout devait passer par une... par le réapprentissage de la tradition, serait-ce pour ensuite la transformer, cette idée l'a habité très tôt. C'est ce qui fait d'ailleurs que certains textes le montrent, qui sont là dans le cahier, vers 1919-20, donc il a 22-23 ans, et il écrit déjà des textes de critique où son savoir est absolument époustouflant. Citant non pas simplement pour mettre des références, mais on voit que la familiarité avec ces textes est très profonde, dans les textes que absolument personne ne connaissait. Il a pensé que c'était cet engagement dans une redécouverte d'une culture qui était recouverte par l'âge de l'assimilation au XIXe siècle, qui devait accompagner et qui donnait son sens aussi à son engagement sioniste qui vient même d'avant la Première Guerre mondiale, qui l'accompagne pendant la Première Guerre, et c'est ce qui fait par exemple qu'il se sent tout à fait en retrait.
Il milite même pour le pacifisme pendant la Première Guerre mondiale, aux côtés de son frère.
D'ailleurs, il évite, enfin, il fait un service militaire très très court en évitant la mobilisation, en se faisant passer pour, il a trouvé une formule qui d'ailleurs il n'est pas sûr que le médecin se soit laissé totalement rouler dans la farine. Et c'est quelqu'un qui joue si bien, il y a quelques problèmes. En tout cas, donc il a. Et c'est un des éléments, d'ailleurs, qui ont créé une crise familiale, qui font que son père le met à la porte. De même, et il va à Berlin, donc dans l'année 17, il va loger dans une pension, n'est-ce pas, dans un hôtel où se retrouvaient ce qu'on appelait à l'époque des host students, n'est-ce pas, des juifs de l'Est, d'Europe orientale. En particulier se trouve là Chazar, qui est une personnalité extrêmement intéressante, qui deviendra d'ailleurs président de l'État d'Israël au début des années 60, mais qui est à l'époque une sorte d'étudiant réfugié de Russie, d'un milieu très éloigné de celui de Scholem.
Alors vous avez évoqué le terme d'insatisfaction, vous évoquez le Scholem en révolte contre sa famille, oui. Le Scholem qui embrasse l'étude du judaïsme, mais pour les révolutionner de l'intérieur, oui. Et quand il rejoint la cause sioniste, c'est aussi pour la révolutionner de l'intérieur. On le comprend bien en lisant, oui, ce cahier de Lerne, le sionisme n'est pas un mouvement uniforme, il y a des tendances, des débats puissants à l'intérieur de ce mouvement, oui. Et lui-même défend une vision du sionisme qui va l'éloigner de beaucoup d'autres sionistes.
Il s'est défini lui-même comme étant d'abord sioniste culturel. Dans les termes de ce qu'ont été les débats du sionisme, il se réclamait des Hadam. Donc c'est l'idée du sionisme comme créant un espace à l'intérieur duquel une culture pourra se réinvestir, se continuer et se réinventer. C'est cela qui attirait Scholem. Si bien que les questions, alors directement politiques, de souveraineté, ne l'ont pas beaucoup retenu. Alors, il était, de ce point de vue d'ailleurs, assez typique du milieu du Jérusalem universitaire des années 30, hein, où c'est cette direction Erhad et Amien. Toujours lié au pacifisme aussi.
Ce sont les premières.
C'est l'héritage, oui, aussi de la Première Guerre mondiale dans une version particulière. Et si bien que là, Scholem est au-dessus du lot, je dirais, mais n'est pas exceptionnel dans ce type de sensibilité. Et donc il est en porte-à-faux avec un paysage politique où. D'une part, alors il est très éloigné, très certainement, du nationalisme, disons, de type jabotinskien, ça très très éloigné. Ils ne se sont pas non plus en communauté, bien qu'il ait beaucoup d'amis, à l'intérieur de ce que sont les formations socialistes. Par exemple, il est un ami proche de Bert Katznelson, qui avait été la grande figure intellectuelle de ce qui deviendra le Mapai, n'est-ce pas, donc le futur parti socialiste israélien. Mais il y a chez lui une préoccupation religieuse qui l'éloigne de ce qu'était l'anticléricalisme très très profond, n'est-ce pas, de la gauche à cette époque. Mais il est religieux sans vouloir du tout s'aligner sur la tradition telle qu'en elle-même, et donc il est toujours un peu ailleurs.
Alors, ce sont les années que vous évoquez, les années du Jérusalem des années 20 et 30, les premières années glorieuses de la fondation de l'Université hébraïque de Jérusalem, qu'il rejoint dès ses débuts, et dont il deviendra évidemment une personnalité éminente. Alors, il y a dans ces cahiers de Lerne une série de grands entretiens, on l'évoquait ensemble, Maurice Kriegel, avec Gershom Scholem, entretien qu'il avait donné dans les années 60 et 70, oui. Qui sont reproduits dans ce livre. On sent bien à lire ces entretiens qu'il avait le goût du débat intellectuel, quitte à aller même jusqu'à la polémique. Oui. Et si on essaie, Maurice Kriegel, de faire le lien entre l'œuvre de Gershom Scholem et ses engagements, oui. Est-ce qu'on peut dire, je force un peu le trait, hein, qu'il a voulu refermer symboliquement ce qu'il considérait comme un échec, à savoir le mouvement vers l'assimilation des Juifs d'Europe, mouvement entamé au XVIIIe siècle?
Très certainement. Il a... Enfin... Je crois qu'on pourrait dire là-dessus deux choses. D'une part, il a été moins sensible à l'accès à l'égalité des droits, à la citoyenneté, etc., qu'à l'effondrement d'une culture, et donc à une perte, n'est-ce pas, dans l'aventure de l'émancipation et de l'assimilation. Et d'un autre côté, il était très attaché à la culture européenne. Il n'a pas du tout prêché, si vous voulez, pour une espèce d'enfermement dans la culture, dans une culture telle qu'elle était, telle que dans l'État qui aurait été le sien à un moment donné. Il était, en particulier d'ailleurs, il est archétypalement, au fond, germanique dans son type de culture. Hein. Donc, il y a chez lui... D'ailleurs, il a toujours refusé l'idée de synthèse judéo-allemande. On pourrait, à la limite, dire que chez lui, justement, on la trouverait. Enfin, ça lui aurait pas plu.
Alors, Maurice Kriegel, pour finir, il ne nous reste que quelques instants. Vous-même, vous contribuez par un texte, outre l'introduction à ce cahier de Lerne consacré à Scholem. Un texte, d'ailleurs... Vous montrez peut-être les limites de la tentative de Scholem de revitaliser la pensée juive au-delà des cercles universitaires et intellectuels quand il était installé à Jérusalem. Mais juste en quelques instants, présentez-nous, c'est évidemment cruel ce que je vous demande, mais les grandes contributions de grands penseurs qui sont reproduites dans la troisième partie de ce cahier de Lerne, grands penseurs qui parlent donc dans ce cahier de Lerne de Gershom Scholem.
Mais si vous voulez, là, les contributions, vous avez... plusieurs étapes dans la elle cherche aussi à montrer des étapes dans la réception de Scholem, par exemple des gens comme Adorno ici font hommage à Scholem, enfin l'hommage a été publié dans les années 70, mais il est ici reproduit, parce que Adorno ou un certain marxisme très hétérodoxe allemand, Scholem a eu avec lui des relations assez ambiguës, en fait distantes mais aussi proches. Et donc là, il y a tout un milieu, évidemment extrêmement intéressant, qui a accueilli Scholem. C'est aussi. Ensuite, une autre étape serait celle, par exemple, il y a ici un article de Georges Steiner qui, bien que lui soit précisément extraordinairement antisioniste, justement a eu avec Scholem une relation très complexe, et il donne de Scholem un portrait très complet et subtil. Je dirais presque d'ailleurs à mon étonnement, mais et puis donc il y a aussi des contributions qui s'attachent plus alors à à retrouver les acquis scientifiques et ce qu'est l'essentiel de la démarche savante de Scholem, mais toujours précisément en essayant de dépasser ce qu'est la discussion très érudite et qui peut être le privilège entre guillemets des spécialistes, pour saisir ce qui fait la dimension du personnage et de l'œuvre, pour voir en lui une des très grandes figures intellectuelles du XXe siècle, certainement dans le judaïsme, mais aussi au-delà.
C'est tout cela, c'est donc à retrouver dans les 327 pages de ce cahier de Lerne consacré à Scholem. Maurice Kriegel, je vous remercie. C'était Mémoire Vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous pouvez retrouver Mémoire Vive sur le site de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin sur le site qui rassemble toutes nos émissions en archives, www.mémoirevive.net.